Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, aujourd'hui dans cette petite chronique du grand monde du travail, nous allons nous adresser donc plus particulièrement aux agriculteurs et nous intéresser à leur sort. On a au bout du fil la chance d'avoir en ligne Paul François. Paul François pour nous expliquer ce qu'il en est de la santé des agriculteurs et au-delà des gens des espaces verts. Alors vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu son nom par rapport au procès contre Monsanto. Donc comme il est en ligne, je vais lui demander, bonjour Paul François, de se présenter lui-même.
Bonjour, bonjour et merci de me donner la parole. Effectivement, donc Paul François, moi j'ai 55 ans, je suis agriculteur céréalier dans le nord de la Charente et j'ai été intoxiqué en 2004 lors d'une manipulation d'un produit fabriqué par la société Monsanto, du Lasso. C'est un herbicide à base d'alachlore et lors de cette manipulation, j'ai été intoxiqué de façon aiguë. Ce qui a entraîné une hospitalisation quelques heures après l'intoxication, mais surtout une aggravation de ma santé dans les mois et années qui ont suivi. Et après un an d'hospitalisation, alors pas continue, cinq mois d'hospitalisation, mais 9 mois d'arrêt de travail, j'avais entamé une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle auprès de la Mutualité sociale agricole. Nous avons une caisse spécifique au monde agricole. Et du fait du refus de la mutuelle, j'ai entamé une procédure pour reconnaissance en maladie professionnelle, procédure qui a duré 5 ans pour une décision finale devant la Cour d'appel de Bordeaux en janvier 2010. Et pendant cette procédure, lors d'un échange avec mon avocat François Laforgue en 2006, et surtout suite à une rencontre avec Henri Pezera, que tout le monde connaît, toutes les victimes de l'amiante connaissent bien. Et Henri Pezera, qui m'avait donc fait rencontrer François Laforgue, qui m'avait fait, lors d'échanges aussi avec lui, je comprenais que la société Monsanto ne pouvait pas ignorer la dangerosité du produit qui m'avait intoxiqué. Et j'ai porté plainte en 2007 contre la société Monsanto. Alors j'aurais pu attendre, parce que d'ailleurs c'était un peu le sens de ma réflexion à l'époque, mais François Laforgue m'avait expliqué que suite à un accident du travail, nous n'avons que 3 ans. Il y a un délai de prescription de 3 ans. Donc j'ai entamé une démarche contre Monsanto en 2007, une plainte, qui a abouti à une condamnation de la société Monsanto en février 2012 pour la première fois. C'était la première fois d'ailleurs en France, mais dans le monde, que Monsanto était condamné. La société Monsanto a bien sûr fait appel. Nous avons gagné devant la Cour d'appel de Lyon. Alors pourquoi Lyon? C'est que le siège social de Monsanto est à Lyon. Nous avons gagné en septembre 2015 devant la Cour d'appel pour la deuxième fois. Monsanto a fait un pouvoir en cassation. La Cour de cassation a tranché en juillet 2017. Retenu à savoir, défaut d'information sur l'étiquette n'était pas le bon fondement, mais que les faits seraient plus graves, à savoir produit défectueux. Donc nous sommes retournés devant la Cour d'appel. Et le 11 avril dernier, la Cour d'appel de Lyon a confirmé cette condamnation, c'est-à-dire la demande, pas la demande, mais je dirais la suggestion de la Cour de cassation, à savoir que c'était bien un produit défectueux et que Monsanto était condamné en tant que tel. Donc ça, c'était le 11 avril dernier. Monsanto a la possibilité de faire un énième recours avant le 9 juillet. Pour l'instant, on ne connaît pas leur positionnement. On verra bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Monsanto n'a toujours pas versé un centime d'indemnisation. Cette procédure en indemnisation, elle peut encore durer 2 à 3 ans. Ils peuvent encore faire des recours. Donc, ce procès n'est pas fini, même si on peut considérer quand même qu'avec ces 3 décisions, on a aujourd'hui 90%, je parle sous le couvert de mon avocat, mais 90% de chances aujourd'hui d'aboutir à une condamnation définitive de Monsanto.
D'accord.
Voilà.
Donc la bataille du pot de terre contre le pot de fer, qui depuis a su s'entourer de spécialistes et qui au fil de temps, on y viendra à la fin, avec des collègues également victimes, a créé une association spécifique pour défendre les gens du monde agricole. Alors avant d'aller plus loin... En fait, par rapport aux pesticides, aux produits utilisés, alors pas seulement Monsanto, mais pour l'essentiel, aujourd'hui on dirait Bayer, Monsanto, en fait, quels sont les risques, quels sont les types de pathologies que peuvent rencontrer les agriculteurs ?
Alors, quel type de pathologie ? Moi, effectivement, c'est une intoxication aiguë avec un produit connu de l'accident. Mais la plupart des agriculteurs qui sont exposés, on est exposés, moi j'ai 55 ans, dans les années 90, nous avions à peu près 1000 molécules différentes qu'on pouvait utiliser, qui allaient des herbicides, des fongicides, des insecticides, toute la famille des pesticides ou produits phytosanitaires. Donc la plupart des collègues sont exposés, c'est des multi-expositions avec des effets différés. La plupart des pathologies apparaissent 20 à 30 ans après. Aujourd'hui, depuis le début de mon procès, et on parlera de l'association tout à l'heure, mais en 2012, la maladie de Parkinson a été reconnue maladie professionnelle. C'est la première fois qu'une pathologie a été inscrite au tableau des maladies professionnelles agricoles. Et en juin 2015, les lymphomes non-Hodgkiniens ont été inscrits également au tableau des maladies professionnelles agricoles. Et aujourd'hui, il y a à la COSMAP, la Commission de reconnaissance en maladies professionnelles agricoles, il est question d'inscrire le cancer du rein, cancer de la prostate, toutes les maladies neurodégénératives. Il y a une grosse suspicion. Parkinson est reconnu maladie professionnelle, mais les maladies de Charcot, hein, le sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, Alzheimer. Pourquoi ? Parce que ces produits agissent sur le système nerveux central et donc il y a de grandes suspicions. Donc la plupart des collègues ont été exposés dans des conditions de travail. Dans les années 80-90, on avait très peu d'informations, de préconisations et on travaillait à main nue avec ces produits. Alors ça peut porter à sourire aujourd'hui en disant mais quand même vous auriez dû vous méfier. Il faut savoir que les firmes nous disaient aussi attention, bon, prenez quelques précautions, mais si vous travaillez avec trop de précautions, vous allez à inquiéter le consommateur. Voilà, il y avait un double discours. Et puis c'est vrai que je peux reconnaître qu'on a notre part de responsabilité. Moi, le premier, dans ces années-là, c'était plus facile de travailler, surtout avec des chaleurs, en short, en t-shirt, sans trop de précautions. Le matériel qu'on utilisait n'était pas équipé de cabine à filtre, donc on a été exposé dans les années 80-90, je dirais même jusqu'en 2010, on a été exposé à de multiples produits sans protection.
Alors, si je comprends bien, pour l'essentiel, les expositions passées dites avec des maladies dites à retardement, qui peuvent se déclencher parfois pour certaines d'entre elles plusieurs décennies après. Donc, vous avez fait une liste. Donc, l'intérêt finalement, c'est de dire aux gens du monde agricole, si vous avez ce type de maladie, posez-vous la question d'une origine professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette chronique, avec encore des difficultés au niveau de la MSA de faire reconnaître toute la gamme, si je peux dire, de pathologies. Donc là, la bataille est loin d'être terminée. Et le problème, en fait, c'est que les agriculteurs sont souvent seuls, souvent isolés dans leur exploitation. Alors, finalement, comment trouver de l'aide ? C'est pratiquement ma question de la fin. Comment trouver de l'aide et comment, finalement, se regrouper quand on a une suspicion de Parkinson, de cancer du rein, etc., toute la liste que vous avez citée, pour finalement faire la relation avec les produits chimiques qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés, puisque il faut le dire tout de suite, Monsanto Bayer a modifié finalement la présentation de ses produits, mais il n'est pas certain du tout que sur le fond ça modifie beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'il faut se méfier quand même au discours de changement des produits si les principes actifs sont toujours les mêmes. Alors ma question, c'est comment ne pas rester isolé et comment comment trouver de l'aide, ensemble, puisque on dit être toile sur tes draps, c'est un petit peu ça, hein, le fond de fonctionnement des associations.
Alors, je ne sais pas si le ciel nous aidera, mais en tous les cas, l'association, elle est là pour ça. Fort de l'expérience de l'association Henri Ezra, nous avons créé cette association en 2011 pour venir en aide effectivement auprès des familles qui étaient souvent dans un désarroi. Pourquoi un désarroi ? Souvent, ce sont les médecins qui indiquaient aux agriculteurs ou salariés agricoles ou ceux qui travaillent dans les espaces verts qui avaient utilisé des produits phytosanitaires, ne cherchez pas. Si vous êtes malade, c'est l'utilisation des produits, tous les produits que vous avez utilisés qui vous ont certainement fait développer cette pathologie. Et donc, les familles, quand ils sont retournés vers la MSA, leur disaient « Mais non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans le tableau des maladies professionnelles. » Moi, je l'ai entendu pour moi-même. Et donc, ça, il nous a semblé évident parce que le monde syndical, la FNSEA en premier, balayait d'un revers de manche en disant « Ou s'il y en a quelques-uns qui sont malades, c'est qu'ils n'ont pas fait attention, ce ne sont pas les produits qui sont dangereux, mais plutôt la responsabilité incombe aux utilisateurs. » Et ça, ce n'était pas recevable pour nous. Donc, nous avons créé cette association pour effectivement au moins apporter une écoute quand les victimes, les familles nous appellent, et ensuite les aider dans des démarches administratives pour obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle qui ne fait pas guérir, certes, mais qui permet au moins de toucher les indemnités qui sont dues, aussi pour donner de la visibilité au nombre réel des victimes, parce qu'on parle de dizaines ou de centaines, mais il y a des milliers d'agriculteurs ou salariés agricoles ou manipulateurs, travailleurs de tous ceux qui ont utilisé ces produits, hein, opérateurs qui ont utilisé ces produits, ça touche des milliers de personnes, et de ne pas reconnaître le nombre de personnes, c'est favoriser le développement encore des produits, parce que vous l'avez dit, justement, on refait des petits mélanges avec des molécules, de vieilles molécules, pour avoir une exposition. Aujourd'hui, 70% des produits phytosanitaires utilisés en agriculture sont des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est très, très grave. Et donc, l'association, elle préconise déjà, au moins au départ, une meilleure utilisation, une meilleure prévention pour que les opérateurs se protègent en utilisant ces produits, fasse attention aussi aux riverains, et on se bat aussi pour se dire, demain, il faut que les responsables payent cette situation, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent public qui indemnise les victimes. Or, nous, on se bat pour un fonds d'indemnisation qui serait abondé à plus de 50% par les firmes, parce que les firmes ont engrangé pendant des décennies, depuis 70 ans, des milliards de bénéfices sur la santé des agriculteurs, mais au-delà de la santé des agriculteurs, mais aussi des riverains et des consommateurs. C'est un vrai scandale d'aujourd'hui, c'est un vrai scandale de santé publique. On voit que le gouvernement actuel continue de protéger les firmes. Agnès Buzyn s'est opposée à la mise en place de ce fonds d'indemnisation pour protéger les intérêts des industriels. Donc il faut des associations comme la nôtre, comme Phytovictimes et autres, pour faire en sorte qu'il y ait un changement radical sur la prise en charge, mais aussi sur un autre modèle agricole.
Alors l'association Phytovictimes, on peut trouver ses coordonnées sur Internet, pour ceux qui n'ont pas le temps de noter. Est-ce que vous pouvez nous dire vite fait comment la contacter
Vous allez sur Internet, vous tapez Phytovictimes, phyto avec un trait d'union et victime avec un S, et vous tombez sur le site, et sur le site, vous avez toutes les coordonnées. Nous avons 4 salariés à plein temps qui seront à votre écoute et qui pourront aider. J'en profite pour dire aussi, parce que des fois, des victimes nous appellent en disant « Ah oui, mais on ne veut pas être médiatisé. » Nous ne sommes pas là pour médiatiser les victimes, on est là pour les recenser. On garde l'anonymat, bien évidemment. Il y a un secret professionnel. On les met en rapport avec des professionnels de justice s'il y a besoin. On les aide à monter leur dossier. Et donc, c'est très, très, c'est un travail très sérieux qui est parfois long, mais il y a aussi un travail d'écoute. Les salariés, je pense à Claire et Ophélie dans l'équipe qui sont là plus pour écouter les victimes, parce que des fois aussi, se sentir moins seul est très important. Parce que le monde paysan est impitoyable. Je dis souvent qu'un accident du travail suite avec un tracteur ou des animaux, il y a une solidarité. Dès qu'un agriculteur, salarié agricole, dit « je suis victime des pesticides, j'ai un cancer », il est tout de suite, ça devient un paria. C'est la réalité du terrain, et donc on les isole, moralement, et ça, ce n'est pas normal. C'est le premier travail de l'association.
Donc, merci pour tous ces renseignements. Peut-être pour terminer, puisqu'on a la chance de vous avoir au bout du fil, peut-être une expérience sur la suite de ce qui vous est arrivé finalement. Votre ferme, qui est une grosse ferme tout de même, est désormais entièrement reconvertie en bio. Alors on entend un peu de tout là-dessus. Alors ça marche, c'est faisable. Est-ce qu'on peut en vivre ? Ce sera le mot de ma question de la fin.
Alors, est-ce qu'on peut en vivre ? Oui, c'est surtout moi qui disais, malgré mon intoxication, je disais encore il y a une dizaine d'années, je n'arriverais pas à faire de bio parce que 240 hectares en bio, en céréales, je ne voyais pas tellement comment c'était possible. À force de faire des recherches, de rencontrer d'autres exemples, j'ai fait le choix parce que pour moi, ça devenait insupportable d'utiliser de la chimie sur cette ferme. Et donc, on a fait le choix de le faire en deux temps. Nous avons converti la moitié de la ferme en 2015 et la deuxième partie en 2017. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 100% en bio. Techniquement, ça fonctionne. J'ai deux collaborateurs avec moi qui se sont investis à fond. C'est beaucoup de travail. C'est un travail différent. Nous avons fait un transfert de charge, c'est-à-dire que nous, on ne met plus dans la chimie, on le met dans de la main-d'œuvre. Donc, on fait vivre plus de personnes sur la ferme. Et d'un point de vue économique, je gagne plus d'argent, malgré le retard de versement des primes, on gagne plus d'argent aujourd'hui en bio sur 240 hectares qu'on en gagnait en chimie. Alors, il ne faut pas le faire du jour au lendemain, ça s'anticipe. Nous, notre réflexion a duré 5 ans avant de faire le pas. Ça se prépare, ça s'anticipe. C'est plus facile dans certaines productions que d'autres, mais en tous les cas, ça fonctionne, on en vit bien, même très bien. Et est-ce qu'on peut nourrir la planète ? Parce que certains diront oui, lui il a envie, mais est-ce qu'on peut nourrir la planète ? Je réponds oui, avec certitude, parce que de toute manière, ce que je sais, c'est que l'agriculture chimique que j'ai pratiquée pendant 30 ans, elle sera incapable de nourrir la planète. Elle continuera de faire vivre des clients, certes, mais elle ne pourra pas nourrir la planète. On n'a pas le temps ce matin, mais j'aurai des arguments pour vous l'expliquer. Mais oui, on peut faire du bio, je dirais même que c'est un devoir. L'agriculture moderne de demain, ce sera une agriculture qui se passera de chimie.
Voilà, donc cette dernière question était également extrêmement enrichissante. On peut remercier Paul-François pour toutes ces informations que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de CFM. Et je veux bien, pour ma part, me faire le modeste relais sur la région de Caylus des questions et les sujets qu'on vient d'aborder. Donc, Paul-François, merci. Bon courage pour vos luttes,
merci
qui finalement sont les mêmes que dans beaucoup d'autres secteurs du monde du travail. Merci encore.
Merci à vous.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Le public de jardin de ma tante. Ah bah si, et mon patron il change de costume deux fois par jour.